avait déjà commencé, mais qui est au long cours, c'est-à-dire qu'après ça durera tout le CIF et toute la vie, puisqu'on entre dans la Bible. Donc un gros livre, on dit un des plus, certainement un des plus édités, des plus vendus dans le monde, certainement un des plus lus pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et la Bible, c'est à la fois quelque chose qu'on connaît très bien parce que ça a donné lieu à tellement de tableaux, de représentations, d'œuvres d'art, littérature, musique, etc., sculpture. Et quelque chose qu'il faut toujours découvrir, d'abord parce que c'est immense, qu'on n'a jamais fini de découvrir, et parce qu'au fond, depuis plus de 2000 ans, parce qu'il y a le monde juif, qu'elle est interprétée, est tordue dans tous les sens, elle a résisté. Et donc ça, ça prouve qu'il y a quelque chose à chercher. Voilà. Pour cette journée, d'abord, vous avez reçu un dossier que vous n'ouvrez pas. Vous n'allez pas vous en servir aujourd'hui. Vous n'allez pas vous en servir, même pas pour écrire, parce que vous n'avez pas le droit d'écrire. Voilà. C'est un dossier qui contient tous et un peu plus de ce que je vais raconter. Moins les blagues. Voilà. Mais normalement, ça contient à peu près tout. Donc normalement, vous n'avez rien à écrire. Ce n'est pas tout à fait dans l'ordre dans lequel je vais le raconter, parce que ce n'est pas tout à fait pareil, la présentation orale, la présentation écrite. Mais normalement, quand même, tout est là. D'autre part, le PowerPoint sera sur le site du CIF et ce sera enregistré. Donc, normalement, vous n'avez rien à écrire, qu'à écouter et qu'à réagir. Alors, pendant l'intervention, pendant que je parle, réagissez si vous n'entendez pas ou si vraiment vous ne comprenez rien, parce qu'il faut le dire tout de suite. Et puis, on ouvrira de toute façon, après chaque heure, un temps de questions. Donc, si vous avez des questions, ça, vous pouvez les noter pour ne pas les oublier, à moins qu'elles soient des questions de compréhension immédiate. Ça va ? Voilà. Alors, on va procéder en quatre phases. Ce matin, jusque vers 11h moins le quart, 11h moins 10, et vous aurez un quart d'heure de pause avec le café et la librairie, les livres vendus, je vous en parlerai avant la pause. Et puis, une deuxième phase avant le déjeuner, jusqu'à midi, midi et quart. On reprend à 1h30, deux phases cet après-midi, et à 4h, vous êtes libre. La première phase, c'est une introduction qui est entièrement rédigée, alors là, pour le coup, rédigée, comme je vais la dire, ou presque, dans vos dossiers, et qui, pour moi, est l'essentiel. Parce que je voudrais donner quelques clés qui doivent vous accompagner ensuite, chaque fois que vous lisez la Bible, Ancien et Nouveau Testament compris. Puisque la Bible chrétienne a un Ancien et un Nouveau Testament. Ce matin, on va être dans l'Ancien Testament et donc largement aussi dans ce qu'on appelle les Écritures juives. Voilà. Donc, première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que la Bible, ça raconte des histoires, et que ce n'est pas d'abord la parole de Dieu qui tombe du ciel, on va en parler, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont d'abord des hommes qui relisent leur histoire. Un peuple qui se tourne à plusieurs reprises vers son passé pour, au fond, se raconter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de récit national. Les Français qui s'entre-déchirent à l'Assemblée auraient besoin d'un grand récit national. Alors, si vous faites un récit national, vous allez chercher quoi ? Vercingétorix à Alésia, on ne sait plus maintenant s'il n'était pas un peu du côté de César de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Clovis, le baptême de Clovis, après, vous allez chercher quoi ? Saint-Louis sous son chêne, Louis XIV, et puis quoi, la Révolution, Robespierre, bon, peut-être, Napoléon, enfin voilà, la République. On cherche dans le passé, au fond, à constituer un récit national pour dire son identité aujourd'hui. Et à plusieurs reprises dans la Bible, en fonction de ce que le peuple d'Israël vivait, il y a eu ce retour sur le passé et cette relecture, où on cherche aussi, et je viens de donner des exemples, à montrer qu'on est réuni, qu'on dépend d'une autorité, d'une personne, d'une figure tutélaire, alors un patriarche, ou dans les peuples anciens, plutôt, une divinité. Quel est ton Dieu ? Je te dirai qui tu es. Donc, le premier mot, c'est des histoires, et surtout, le deuxième mot, c'est que la Bible, c'est toujours des relectures. On relit toujours son passé. Alors, les Ignatiens savent ça très bien, les autres moins, mais on passe son temps à relire le passé et à l'interroger. Et une bonne image, mais c'est jamais qu'une image, c'est l'album de famille. Vous trouvez chez vous, à un moment donné, un très vieil album de famille qu'on s'est transmis de génération en génération. Et à certains moments, il a été relu. Donc on va trouver des vieilles images du passé, une vieille carte de, je sais pas quoi, les premiers voyages en chemin de fer, ou des images encore plus anciennes. On va dans une généalogie ou une lettre dans les tranchées écrite à sa famille, du grand-père, etc. Et en même temps, on commente, on écrit en marge, on annote, on reprend, et cela à plusieurs reprises. Et la Bible, ça ressemble un peu à ça. On relit le passé, dont on a des documents. Alors ce sont des documents écrits, bien sûr, parce qu'on est dans l'écriture, mais c'est des traditions orales qui ont été mises par écrit. On relit les documents, on les annote, on les reformule et on écrit du nouveau à partir de là. Gardez toujours ça en tête. Ça marche aussi pour le Nouveau Testament. On relit ce qu'on a vécu avec Jésus lui-même, avec des témoins, mais on le relit, on essaye de le comprendre, on annote, on ajoute, etc. Alors, ce passé, il est composé de quoi ? Évidemment, à l'origine, comme dans tous les peuples anciens, de traditions orales. Ce qu'on s'est transmis à la veillée, de père en fils, ce qu'on a raconté, etc. Et ça vient aussi de sources différentes, puisque chaque famille, chaque clan, chaque tribu a les siennes. Elles ont été un jour mises par écrit. Bon, on ne sait pas trop quand, mais il y a des écrits assez anciens. Peut-être pas trop, l'écriture, on va le voir, arrive vers l'an 1000. Donc, ce n'est pas mis par écrit avant. Avant, c'est les Égyptiens, c'est les Sumériens au nord et les Acadiens, voire les Hittites, mais Israël n'a pas l'écriture. Donc, elles sont mises par écrit à un moment donné, et elles sont composées de quoi ? Eh bien, de récits populaires. Voilà. Comment le jeune Saül a été envoyé à la recherche des ânesses perdues de son père. C'est comme ça que ça commence, hein, 1 Samuel 9. Le jeune Saül qui part à la recherche des ânesses. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à faire avec la Bible, ça ? Eh bien, c'est un récit ancien qu'on a gardé et où on a vu le début d'un premier candidat à une certaine royauté. On le garde, on le commente, on réfléchit dessus. Il y a des poèmes du passé. Il y a des oracles de ceux qui se sont levés et qu'on a appelés des prophètes pour dénoncer ce qui allait mal. Il y a des lois. Et vous savez que dans la Bible, on a plusieurs, même dans les cinq premiers livres, on a plusieurs corpus de lois. Il y en a un dans l'Exode, un dans le Lévitique, un dans le Deutéronome, qui ne sont pas du tout d'accord entre elles. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Mais il y a plein de lois divergentes, parce que c'est des corpus de lois de clans différents à des époques différentes. On garde tout. On garde, on relit. Il y a des annales royales. Et puis, il y a des romans, et puis, il y a de la réflexion, etc. Il y a de la liturgie, des psaumes, il y a des proverbes. Bon. Voilà, on commente, on relit, on réécrit les traditions du passé et c'est pour comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors vous allez me dire, quel aujourd'hui ? Eh bien, il y a plusieurs aujourd'hui et on verra que ça a continué à grossir avec les siècles. Voilà. La deuxième chose, après ce phénomène de retour sur le passé, de relecture pour raconter son histoire et ses histoires, le deuxième point qui fait que nous sommes là, parce que tous les peuples ont fait ça, hein, beaucoup de peuples. Le deuxième point, c'est que ce petit peuple-là, quand il se retourne sur son passé, se découvre toujours précédé. Voilà. Attendu, il y a quelque chose qui est avant lui, toujours, qui l'attend, et ce quelque chose ou ce quelqu'un, ça se figure par une promesse de vie, une promesse de terre, une promesse de descendance. Il y a une promesse qui vous précède. On est pris dans une promesse, même une alliance, et le mot berit en hébreu veut dire alliance, mais souvent il a plusieurs sens, on est près du contrat ou on est plutôt du côté de la promesse. Voilà. En plus, on découvre aussi, pour une partie et un moment, un événement de libération et de salut. On a été arraché à la maison d'esclavage et de servitude, l'Égypte, et on a été conduit vers une terre. Et puis, de plus en plus précisément, une proposition d'alliance sanctionnée par une loi, et ce qui est derrière, ce qui est toujours là et qui vous attend, c'est un Dieu. On l'appelle Dieu. On va voir que ce Dieu, il a plusieurs noms, mais c'est toujours l'idée que quand on regarde ce qu'on a vécu, il y avait là pour nous accompagner, pour promettre, pour faire alliance, parfois pour punir, quelqu'un qui nous accompagnait et qu'on va appeler Dieu. et que ce Dieu nous attendait. C'est quand même ça la chose étonnante qui n'est pas de la même façon chez d'autres peuples. Parce que c'est un Dieu qui est en quête de l'homme, voilà. En quête de l'être humain, si vous voulez être pas genré, voilà. En quête des humains. Un Dieu qui veut rencontrer, s'allier, entrer en dialogue, parler avec des humains. Alors, pour moi, la définition même de ce processus biblique, donc les relectures du passé, la découverte qu'un Dieu est là, qui nous attend et qui veut nous accompagner, est comme résumé par un épisode de la Bible, je l'ai dit le jour de la rentrée, un épisode de la Bible, un épisode de la Genèse, donc du premier livre, au chapitre 28. C'est le jeune Jacob qui en a lourd sur la conscience, puisqu'il a volé la bénédiction à son frère Ésaü. Il a très très mal agi, il a trompé son père, enfin, voilà, il a fait ce qu'on ne devait pas faire, et qui donc fuit devant son frère. Il s'arrête à un endroit où il y a un ancien sanctuaire, il s'endort, la tête posée sur une pierre, peut-être c'était pas confortable. Il rêve, une échelle qui part de terre et qui va jusqu'au ciel, les anges qui montent et qui descendent, enfin le ciel est ouvert. Bon. Et quand il se réveille, et qu'il réfléchit à son rêve, qu'il relit son rêve, il dit « Le Seigneur est là, et moi, je ne le savais pas. » Voilà. Il découvre que Dieu est là, était là, et ce Dieu va faire alliance avec lui en lui promettant une descendance, une terre, etc. Alors, du coup, ce Dieu qui se révèle, comme on a, je vous l'ai dit, des relectures diverses et des éléments anciens relus à des époques différentes, il ne va pas toujours avoir la même figure parce que chaque groupe avait son Dieu. On est encore dans des documents qui sont des traces d'un polythéisme ancien. Il y a des traces d'un polythéisme ancien. Chaque clan avait son Dieu, la terreur d'Isaac, le fort de Jacob. Voilà. Et on a des documents qu'on a gardés qui disent ça. Et en gros, il y a quand même aussi deux grandes figures de Dieu qui se détachent, mais qui vont, tout ça va se rassembler. Hein. On va en parler sous la forme d'un Dieu unique. N'empêche, on a les traces de cette variété. Le grand Dieu du ciel, qui est le Dieu du Nord, d'Ougarit, etc. Elle, hein, dans la Bible, Dieu, c'est elle. Voilà. Et puis, un Dieu qui vient du Sud et qui prend de plus en plus de place, à tel point qu'à la fin, et on est dans la fin, puisqu'on est au moment où tout ça se rassemble, se rédige, on ne prononce plus son nom. On appelle ça le tétragramme. Il y a 4 lettres hein, en hébreu. Alors, en transcrit en français, ça fait YHWH. Alors, on l'a longtemps appelé Yahvé. On l'a même appelé, ce qui était absurde, Jéhovah, mais peu importe. Bon, on ne prononce pas son nom et on le remplace par le Seigneur, Adonai. Alors, si elle, c'est le grand Dieu du ciel qui a créé le monde, plus ou moins, le Seigneur, ce Dieu qui porte pour nom propre le tétragramme et qu'on, par respect, on ne prononce pas, est d'abord plutôt le Dieu du Sud, un Dieu de l'orage, un Dieu des vents, un Dieu guerrier, enfin un Dieu qui fait du bruit. Voilà. Mais dans la relecture, on garde ces noms et en même temps, on a la conscience très forte et on marque dans le récit que c'est bien le même. Alors, on a dans les psaumes, par exemple, quelque chose du genre hein, « Le Seigneur, redoutable plus que les autres dieux. » Tiens, il y avait d'autres dieux ? Ben oui, il y en avait d'autres quand le psaume a été écrit. Mais lui, il est redoutable plus que les autres dieux. Et alors, on a ajouté « Néant les dieux des nations. » Les autres sont rien. Donc, en fait, il n'y a que lui. Donc, il y a ce travail partout de rassembler et de dire que tous ces dieux, en fait, c'est le même qui nous attendait partout et toujours, et un jour on va dire c'est le Dieu créateur et sauveur, il n'y en a qu'un, c'est l'unique. Mais ça, ça viendra tard, ça viendra au 6e siècle. Ça va ? C'est pas trop compliqué, ça, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des noms divers de Dieu dans la Bible. On a gardé, on a respecté, partiellement, mais au moins partiellement, des documents du passé. Voilà. Et donc on les a souvent juxtaposés, ou recousus ensemble. Je vais vous montrer un exemple, mais avant, je veux dire que du coup, ça donne une diversité très grande de figures de Dieu dans la Bible. Les chrétiens, je pense que pour vous c'est fini, mais pour beaucoup de chrétiens encore, il y a un Dieu qui punit, un Dieu vengeur, un Dieu pas méchant, mais un Dieu juste et raidement juste, celui de l'Ancien Testament. Celui-là, on peut le craindre. Et puis un Dieu d'amour qui est le Dieu révélé par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Moi, je dis pipeau. Pipeau, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi, c'est simplement qu'ils ne l'ont pas lu. Voilà. Ils ont lu ni l'un ni l'autre. Ils vivent sur cette vieille idée, qui est l'idée, effectivement, alors on en parlera plus tard en janvier, d'un théologien, je ne sais pas si vous parlez d'un théologien, en tout cas d'un penseur chrétien du IIe siècle, Marcion, qui a décidé qu'il y avait un Dieu méchant, celui de l'Ancien Testament, et un Dieu bon, le Nouveau. C'est facile, on sait à quoi il faut s'opposer. Mais c'est faux, c'est faux. Le Dieu de l'Ancien Testament est encore celui du Nouveau Testament. C'est d'abord un Dieu tribal, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et chacun avait un peu le sien. C'est aussi le Dieu de l'orage et du tonnerre. Il y a des psaumes extraordinaires. Il descend sur l'aile des vents et il arrive en jetant des éclairs, en lançant des flèches. Bon, il y a des poèmes magnifiques dans les psaumes. C'est le Dieu des armées, le Seigneur Tsebaoth. On ne sait pas comment traduire. Parce que d'abord, c'est le Dieu des armées, et surtout quand on était vainqueur. Évidemment, Dieu, c'est d'abord le Dieu des vainqueurs, parce que les autres vous disent, mais si vous êtes vaincu, c'est que votre Dieu n'était pas fort, ce n'est pas le bon. Donc c'est le Dieu des armées, le Dieu des vainqueurs. Maintenant, on traduit le Dieu des armées célestes, ou le Dieu du ciel. Bon, parce qu'on a changé, on a amplifié l'idée. Alors, oui, c'est un Dieu capable de venger, mais c'est surtout un Dieu juste, capable de punir. Mais c'est surtout, et dès le début, un Dieu amoureux, un Dieu en quête de l'homme. Un Dieu qui se présente, et dans les textes les plus anciens, au 8e siècle avant Jésus-Christ, chez le prophète Osée, probablement un des plus anciens, même s'il a été relu à travers les siècles, un amant trompé. Alors il est furieux, il est jaloux. Il est jaloux, et être jaloux, ça peut rendre un peu méchant. Mais c'est surtout un Dieu tellement amoureux qu'il va finir par pardonner. Et il pardonne largement, et il reprend l'infidèle, évidemment. C'est dans ce même prophète Osée, un Dieu père plein de tendresse qui élève l'enfant contre sa joue. C'est des images de la tendresse de Dieu. On peut pas, on n'a pas tellement d'autres termes humains pour le dire davantage, qui sont très, très, très anciennes. Voilà, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est d'abord un Dieu qui aime. Évidemment, le Dieu de Jésus-Christ sera aussi un Dieu qui aime l'humanité au point de la rejoindre. Mais vous trouvez dans le Nouveau Testament... Lisez l'évangile de Matthieu, qui a été par excellence l'évangile de l'Église. Vous avez aussi les pleurs et les gémissements et les grincements de dents dans la géhenne. Il y en a des passages rudes et durs et de punition et de châtiment. Parce que Dieu est d'abord juste, juste et en même temps miséricordieux, aimant. Et tenir la justice et la miséricorde, c'est un problème qui se pose aujourd'hui de façon cruciale et à tout moment. L'important qu'il faut retenir, c'est que cette diversité d'images de Dieu, toujours relue dans l'idée qu'en fait c'est un seul, c'est le même, mais qu'on ne pourra jamais tout dire de lui. Et que si on arrivait à l'enfermer dans un nom, et c'est un peu notre tendance, en gros on sait qui est Dieu, eh ben, on se tromperait et on le défigurerait. Saint Augustin le dit bien, si tu as tout compris de Dieu, alors tu t'es trompé. Tu t'es trompé de Dieu. Dieu, on ne l'enferme pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et donc, la Bible a eu ce courage, les auteurs bibliques ont eu ce courage de garder les traces les plus anciennes d'un Dieu pas toujours sympathique, pas toujours sympathique, pour montrer que mais là aussi, il y avait une quête de Dieu et que Dieu a parfois cette allure. Et il y a parfois le Dieu absent, le Dieu dont on aimerait bien qu'il se manifeste et qui ne se manifeste pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il garde tout ça. Il garde tout ça dans cette idée très profonde que nous devrions avoir, qu'on n'a jamais fini de connaître Dieu et que Dieu a plusieurs noms et que vous pouvez l'appeler Allah et que vous pouvez l'appeler le Seigneur et que vous pouvez l'appeler le Dieu des chrétiens. Vous n'avez jamais encore perçu la totalité de Dieu et heureusement. Voilà. Ça va, ça ? Je ne vous ai pas perdu ? Alors, la particularité de ce Dieu biblique, peut-être que d'autres l'ont aussi, mais c'est quand même un Dieu qui s'approche très fort de l'homme. C'est un Dieu qui s'est engagé dans l'histoire humaine et qui essaye de se révéler au cœur de cette histoire et au cœur de l'être humain. C'est un Dieu qui veut parler au cœur. Et deuxièmement, je ne sais pas si j'aurais pas dû le dire avant, premièrement, parce que si vous ouvrez la Bible, le premier livre, c'est la Genèse, le premier chapitre, c'est la création, et un des refrains de ce chapitre, qui en a beaucoup, c'est « Dieu vit que cela était bon ». Et même pour l'humanité, Dieu vit que cela était bon, très bon, et il bénit. C'est un Dieu qui veut pour l'humanité que ce soit bon. Quand on a des catéchumènes ou des jeunes qui viennent ou des séminaristes parfois qui ont des jeunes, j'ai vécu ça avec des jeunes professionnels. Et il y a des endroits où on commence par leur apprendre, leur enseigner l'homme coupable d'une faute originelle. Ben, attendez, dans la Bible ça commence pas comme ça, ça va venir évidemment. Dès qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et dès qu'il y a de l'humanité, il y a de la méchanceté et du mal. Mais la Bible ne commence pas comme ça. Ce qui est premier dans la Bible, en tête, dit le texte hébreu, ce qui est premier, c'est Dieu qui bénit et qui veut que ce soit bon. Et c'est ça le programme pour l'humanité. Après, maintenant, il nous est confié. Ça, c'est un autre problème. Pour illustrer tout ça, pour que vous compreniez bien, je vous propose de lire quelques textes bibliques, évidemment, que j'ai pioché dans la Bible. Alors vous allez me dire, vous avez choisi ce qui vous convient. Évidemment que j'ai choisi ce qui me convient. Mais en fait, ils sont caractéristiques et semblables à beaucoup d'autres. D'abord, au tout début, les deux premiers récits de la création. Il y a deux récits de la création. Je sais bien que pour les créationnistes, on arrive à les ajointer ensemble au prix d'un effort et d'une torsion incroyable. Les deux récits sont incompatibles, deux récits de dates différentes, deux façons de dire la création. Dans le premier, Dieu parle et ça a lieu. Il parle, ça a lieu, c'est la parole qui est créatrice. Dans le second, Dieu est un Dieu potier qui façonne, hein, une poterie, puis qui souffle pour faire naître le Pinocchio ou l'être humain qui va être vivant. Donc deux récits différents. Et alors, à la jointure de ces deux récits, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on voit comment les auteurs bibliques, à un moment donné, ont recousu ensemble les deux récits qu'ils avaient découverts dans leur passé. Ou peut-être en ont-ils écrit un à l'occasion. En tout cas, ils ont deux récits entre les mains qui sont incompatibles et il faut les recoudre ensemble. Alors, regardez comment ils font. Je suis à la fin du premier récit, qui est la grande liturgie de la création du monde en 7 jours, avec le repos de Dieu le 7e jour. Le 7e jour, c'est le sabbat, on se repose. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour, le consacra, alors qu'il avait arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait germé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Le Seigneur Dieu modela de l'homme, l'homme modela l'homme ou l'humain avec de la poussière prise sur le sol. Donc, à un moment donné, Dieu a tout fini, il faudrait arrêter ce portable. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main dessus ? Merci. À un moment donné, la création est finie, il y a non seulement la terre, le ciel, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les étoiles, la lune et le soleil pour marquer le temps. Il y a non seulement les plantes et les végétaux, mais les bêtes de la mer, les bêtes de la terre, les mammifères et enfin les êtres humains. Et tout ça est achevé. Et tout d'un coup, ça va recommencer. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Entre les deux, il y a cette petite phrase, tout est arrêté, telle est la naissance du ciel et de la terre lors de la création. Est-ce que ça conclut le premier récit ou est-ce que ça ouvre le second ? Vous choisissez l'un des deux. Pour vous montrer qu'on met une jointure et voilà, qu'on recommence un autre récit tranquillement. Et ils n'étaient pas idiots. Ils étaient bien conscients du fait que les deux récits n'étaient pas compatibles. Ils n'étaient pas bêtement créationnistes. Ils savaient bien que ces deux récits étaient différents. Mais justement, de Dieu et de sa création, de Dieu et de sa relation au monde créé et à l'être humain. On ne peut pas tout dire en une fois. Il faut au moins le dire en deux fois. Et on le dit en deux fois. Voilà. Et ces deux fois sont évidemment chacune venues d'un lieu différent. Elles honorent des récits de création différentes et elles sont tout aussi intéressantes plus que l'autre parce que l'une et l'autre disent quelque chose de la relation de Dieu au monde créé et à l'être humain. Ça va, ça ? Il ne faut pas essayer de les harmoniser. Il faut au contraire savoir qu'il faut au moins deux fois pour dire Dieu. Il y a un psaume qui dit ça. Un psaume qui se termine par « Dieu a dit une chose, deux que j'ai entendues ». Quand Dieu dit une chose, vous ne pouvez pas l'entendre en un coup. Ben vous seriez mort. La face de Dieu, on ne peut pas l'avoir. Il en faut au moins deux et plein d'autres. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, et là il faut que je vous raconte. L'histoire du prophète Élie. Vous connaissez le prophète Élie, et si vous ne le connaissez pas, c'est un vieux prophète légendaire dont personne ne sait qui il était, ni si même il a vraiment complètement existé, peu importe. Dans des temps très anciens, dans le royaume du Nord, autour du 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est très vieux, Élie n'a rien écrit, on raconte son histoire longtemps après. Mais on raconte beaucoup d'histoires à propos d'Élie. On raconte beaucoup d'histoires différentes. Et donc ceux qui vont vouloir ensuite rassembler tout ça dans une histoire royale pour raconter la suite des rois depuis le commencement jusqu'au moment de la chute de ces rois et de la disparition d'un puis de deux royaumes, il va falloir unifier un peu l'histoire d'Élie. Donc on va juxtaposer tout ce qu'on sait à propos d'Élie en harmonisant un peu, mais pas trop. Alors, on sait à propos d'Élie qu'il y a eu un conflit formidable entre Élie, qui est un prophète, et le modèle même du prophète. Qu'est-ce qu'il fait un prophète ? Un prophète, il n'annonce pas l'avenir, c'est pas Madame Soleil. Un prophète, il dénonce ce qui va mal. Il dénonce ce qui n'est pas conforme du tout dans ce que vous faites à ce que Dieu veut. Le prophète dénonce. En même temps, il dit, si vous continuez comme ça, ça va mal tourner. Donc, il annonce l'avenir. Donc, le prophète devient un prophète de malheur. Et dans un très grand nombre de civilisations anciennes, le prophète est toujours un prophète de malheur. Cassandre, chez les Grecs, est la prophétesse de malheur. Bah oui, mais elle savait bien que ça finirait mal et qu'on finirait par se battre, évidemment. Ouais. En Israël, le prophète est d'abord celui qui passe son temps à dénoncer la mauvaise conduite et la mauvaise gestion des rois et du peuple qui suit, tant bien que mal. Donc le prophète Élie est un prophète qui dénonce la mauvaise conduite du roi Akab, entraîné par sa femme, c'est toujours la faute des femmes, hein. Ce sont des récits terriblement patriarcaux. Les femmes sont coupables de tout, Ève la première, et alors après les reines, et surtout les reines étrangères. Méfiez-vous des étrangères, c'est calamité. Pourquoi ? Parce qu'elles amènent leur dieu, et leur dieu qui ne se laisse pas facilement assimiler, et qu'au lieu de se laisser assimiler par le dieu d'Israël, ils tentent le peuple et ses rois d'aller les adorer, eux, les fameuses idoles. Tout le rôle des prophètes est un combat contre les idoles, c'est-à-dire les autres dieux, c'est-à-dire, au fond, les idoles que se font les hommes, faites évidemment de main d'homme. On sculpte une petite statue de bois, de pierre, on plante un poteau, et c'est une divinité phallique qui va faire tomber l'eau du ciel. Dans un peuple de paysans, les dieux sont des divinités de la nature. Ce dont on a besoin, c'est de la pluie au bon moment. Et oui, il faut la pluie d'automne pour mouiller la terre et il faut la pluie de printemps pour faire lever les graines. Donc les divinités, c'est les divinités de la nature. Et les femmes qui arrivent avec leur divinité de la nature, et bien, tout le monde, évidemment, se tourne vers elles, le roi compris. Et Élie dénonce le passage à l'idolâtrie et aux divinités de la nature qu'on appelle les Baals, du roi Akab, à cause de sa femme Jézabel et de tout son peuple derrière lui. Et en plus, ces deux-là, ce sont quand même des gens extraordinairement violents et oppresseurs qui volent la vigne du voisin, qui agrandissent leur pré carré en tuant tranquillement. Il y a un conflit parce qu'il y a la sécheresse. Et donc, les dieux de la nature n'ont pas répondu. Ah, donc, alors, ils ne sont pas des bons, ceux-là. Élie dit oui, mais vous ne priez pas mon Dieu, le Dieu d'Israël, évidemment, il ne vous répond pas. Donc, on va faire une espèce d'ordalie, c'est-à-dire, on va faire un grand combat entre les prêtres des Baals d'un côté, les dieux de la nature, Élie de l'autre. Chacun va faire un autel à son dieu, mettre du bois, etc. On va mettre le peu d'eau qu'on a tout autour pour appeler l'eau du ciel et on va demander aux divinités ou au dieu d'Israël pour Élie de se manifester en faisant tomber le feu sur cet autel et puis l'eau du ciel pour l'éteindre. Et comme ça, on aura la pluie. Alors, les prophètes de Baal, ils passent toute la matinée à monter leur autel, à faire des danses, à se taillader. Enfin, ils ont des tas de pratiques qu'évidemment, Élie condamne, à hurler, à agiter des instruments de musique. Et puis, il n'y a rien qui vient. Pas de nuages à l'horizon et pas de feu sur l'autel. Alors, Élie, à son tour, appelle le Seigneur et au bout d'un moment, le feu tombe sur l'autel d'Élie et on voit à l'horizon arriver un petit nuage. La pluie arrive et c'est le dieu d'Élie qui a gagné. Le feu du Seigneur tomba et dévora l'Holocauste. À cette vue, tout le peuple se jeta la face contre terre et dit « C'est le Seigneur !» Donc, celui dont on ne prononce pas le nom, qui est Dieu. Donc, ils ont gagné. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir comme ce dieu est sympathique. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, descendez-les dans le ravin, et il les égorgea un à un. Bon, alors c'est une drôle d'image de Dieu, ce Dieu qui arrive quand il faut gagner sur les autres, qui fait tomber le feu d'abord, la pluie ensuite, et surtout qui demande l'extermination des prêtres, de ceux qui servent les autres divinités. 1 Roi 18, voilà ce qui se passe au chapitre 18 du livre des Rois. Ensuite, évidemment, Élie est détesté par la reine Jézabel, elle qui a amené les dieux Baal, et il est poursuivi, donc il doit fuir au désert. Et il fuit au désert, et l'histoire, c'est que Élie, désespéré, se couche sous un arbre, et qu'un ange vient le réveiller en lui disant, voilà, c'est une cruche d'eau et du pain, tu continues. Élie continue, se réfugie dans la montagne pour échapper à la vindicte de la reine, et là, le Seigneur va passer. Il comprend, il entend que le Seigneur va passer. Et alors, il y a des manifestations qui ressemblent un peu à ce qui s'était passé au chapitre d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui passe, il y a un vent, il y a un orage. Et le Seigneur n'est pas dans le feu, et le Seigneur n'est pas dans le vent, et le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Et le Seigneur est passé. Alors voilà, un autre visage de Dieu, cette voix de fin silence. Vous ne pouvez pas harmoniser ça avec la vision précédente. C'est deux visions complètement différentes. Vous préférez la seconde? Oui, mais d'accord. Mais quand on a faim, qu'il y a la famine et qu'on n'a plus rien à manger, on aimerait bien quand même que l'eau tombe. Il faut voir les situations et les situations de pauvreté extrême et d'indigence extrême. Voilà, deux visages différents de Dieu à un chapitre de différence. Et les auteurs bibliques ne s'en inquiètent pas. Ils n'essayent pas de vous expliquer, ah mais attention, on a changé d'époque, on a changé de lieu, ça c'est une autre tradition. Pas du tout, on juxtapose et débrouillez-vous, ça va? Parce que au fond, eh bien, dans le cœur humain, il y a des moments où voilà, on a envie d'un Dieu comme ça et que c'est difficile de ne pas le dessiner comme ça. À d'autres moments, on comprend peut-être que Dieu est plutôt dans le silence que dans le vent et l'orage tonitruant. Mais après tout, la pluie qui tombe en temps de sécheresse, on dit volontiers, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et oui, on dit ça, voilà. La Bible juxtapose tout ça pour essayer de nous montrer cette diversité d'expériences de Dieu, parce que c'est ça au fond dont il est question, des expériences de Dieu dans l'histoire. Et finalement, ce qu'elle dit aussi, c'est que chacun de nous est invité à ajouter à tout ça sa propre expérience de Dieu. Que l'histoire n'est jamais finie et que la découverte de Dieu, elle n'est jamais finie. Vous allez me dire, un jour, on a clos le canon biblique. Oui, on l'a clos, mais du côté du judaïsme, le Talmud a ajouté des milliers et des milliers de pages. Du côté du christianisme, on a ajouté le Nouveau Testament qu'on a clos, mais il y a les pères de l'Église, il y a la scolastique, il y a les sermons, il y a les théologiens, et puis il y a chacun des croyants qui ajoutent sa petite histoire et son expérience de Dieu. Ça va? Je termine, et après je vous laisse poser vos questions, même si on n'a pas fini. En revenant sur la question, la Bible, alors, Parole de Dieu ou parole d'homme? On lit le texte biblique pendant la célébration et on termine. Alors déjà, on l'a relevé par la lecture. On n'est plus dans un écrit, on est dans un oral. On l'a lu, on l'a proclamé. Et on termine en disant « parole du Seigneur ». Moi, j'ai toujours envie de dire « parole du Seigneur » à accueillir dans vos cœurs et à faire bouger et à mettre en œuvre dans vos cœurs. Tant que vous ne l'avez pas accueilli, est-ce que c'est parole du Seigneur? Je ne sais pas. Ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'ici, donc je pose juste des clés, hein, que la Bible, ce sont d'abord des paroles d'hommes, bien évidemment. Je suis désolée, c'est pas même le décalogue qui a été écrit en deux fois et qui a deux versions, j'aurais pu prendre ça comme exemple. Il y a deux versions différentes du décalogue. Alors, laquelle vient de Dieu? Réponse, les deux. Évidemment, les deux. Mais même le décalogue, ce n'est pas Dieu qui dicte et Moïse qui écrit, même si on dit que c'est écrit par le doigt de Dieu. Bon, le doigt de Dieu, c'est aussi une expression pour dire que Dieu intervient. Essentiellement, c'est une grande diversité de paroles d'hommes dans des contextes différents, avec tout leur poids d'humanité. Ça veut dire que, pour le dire de façon simple, il y a des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire. Voilà. Alors, ça, c'est l'image. Mais ça veut dire que ces paroles d'hommes, elles sont diverses. Elles sont limitées. Bien sûr, elles sont inspirées. Paul Beauchamp disait, un homme écrit les mots de la Genèse et s'aperçoit que c'est l'Esprit de Dieu en lui qui tenait sa main. Mais il s'en aperçoit après coup. D'abord, il a écrit les mots avec des mots humains, avec les images et les représentations de son temps, avec ses limites. Toute parole d'homme est limitée. Il n'y a jamais de parole définitive qui dit tout, etc. Mais à travers ces paroles d'homme, pour qui s'est écouté, résonne la parole de Dieu. Parce que pour ceux qui l'ont écrit, c'était bien de ça qu'il s'agissait. Se dire qu'à travers ces histoires, parfois épouvantables, parfois merveilleuses, il y a des histoires épouvantables dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui se ferait un chemin difficilement pour arriver à l'homme. Dieu en quête de l'homme, et quand on sait un petit peu ce que c'est que l'humanité, il suffit d'ouvrir le journal ou d'écouter la radio, et parfois on a envie de crier au secours, quand on voit ce que c'est le poids de l'humanité et le poids d'horreur que c'est l'histoire humaine, son poids de beauté aussi. Mais on se dit que la parole de Dieu, elle a du mal à se frayer un chemin là-dedans. Mais la Bible, c'est le chemin qu'elle essaye de se frayer pour parvenir jusqu'à nous, affirmant toujours qu'au fond, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient à notre recherche. Voilà. C'est Dieu en quête de l'homme qui, par ses chemins, par médiations humaines, jamais en direct, et du coup, vous êtes obligé d'accepter des institutions, parce que les médiations humaines, ça passe aussi par des institutions. Bon, on en pourra en reparler. Mais c'est la parole de Dieu qui part des médiations humaines en tous sens, et la parole en est un, jusqu'à ce qu'il nous arrive en l'homme Jésus-Christ, mais lui aussi est un homme, quand il est incarné, limité, est en quête de notre réponse. C'est un Dieu dont nous savons dès le début qu'il bénit, qu'il veut que ce soit bon et qui, en même temps, par ses chemins, traîne avec lui des expériences humaines avec leurs défauts. Dernier exemple. Je voudrais vous montrer qu'on peut lire un texte biblique, et on va en reparler après, à des tas de niveaux, et toujours l'entendre résonner pour son temps ou pour son problème personnel, sans jamais faire une lecture fondamentaliste qui dit « Ah, c'est ça qu'il faut dire, ah, c'est celui-là qui a raison. » Simplement entendre quelque chose résonner. Ce qui n'exclut pas, parce que pour pouvoir le faire, un travail de déblayage, de laborieux, etc., que je vous évite. Beaucoup l'ont fait avant moi, donc je le prends à mon compte. Je lis l'histoire dans 1 Samuel 3, donc je suis toujours dans les débuts de la Bible, hein, c'est après les 5 premiers livres, on a Juges et Josué, et puis les premiers livres de Samuel. Donc le tout début de l'histoire d'Israël, de l'histoire royale. On n'a pas encore de roi, et Dieu va faire lever un prophète, le jeune Samuel, dont l'appel est assez célèbre, parce qu'il y a des tas de jolies images autrefois, sont peut-être un peu dépassées aujourd'hui, mais des images de première communion avec l'appel du petit Samuel, c'est un jeune homme hein, quand même, du petit Samuel qui répond à Dieu, me voici. C'est merveilleux, mais à mon avis, le texte dit autre chose, et encore autre chose. Ce texte est situé pour ça, son récit, le moment du texte, là où le récit se passe, dans aussi une période très ancienne, avant la période royale, c'est-à-dire qu'on est peut-être au début de l'an 1000. Il n'y a pas encore l'écriture, le texte est bien plus tardif. Le texte est bien plus tardif. Il a récupéré des vieux récits, des documents, l'histoire de Samuel, l'histoire des premiers rois. Et il s'en sert pour dire quelque chose à un autre moment, à un moment où le temple d'Israël doit être purifié, doit être repris. Il y a des idolâtries en tous sens, il y a une mainmise des prêtres ou des grands prêtres sur les sacrifices. Évidemment, on s'enrichit aux dépens d'un peuple crédule. Il faut arranger tout ça. Alors, on relit le passé et on relit l'histoire de Samuel dans un sanctuaire du Nord qui a eu son temps de grandeur avec des divinités un peu diverses et qui s'est effondré un jour. Dans ce sanctuaire, à Silo, le jeune Samuel servait le Seigneur en présence d'Élie et Eli. C'est pas le même que tout à l'heure. Si tout à l'heure, c'était Élie, le prophète. Celui-là, il est encore avant et c'est un prêtre, en présence du prêtre Élie. Un petit mot sur ce prêtre Élie. C'est un très vieil homme. Il n'y voit plus. La prêtrise, dans ses temps anciens, et ça a duré longtemps, était de père en fils. Et ses fils sont des vauriens. Ils sont des vauriens au sens fort. Ils piquent les meilleurs morceaux de viande quand les gens apportent des sacrifices. Il couche avec les filles qui viennent prier là. Enfin, ils se conduisent extraordinairement mal. Élie le sait et il n'a pas vraiment le courage de se dresser contre ses fils. Il est vieux, il en a assez. Il a auprès de lui un jeune servant qui a l'air excellent, mais la prêtrise doit aller à ses fils. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. Vous voyez l'atmosphère de fin de règne ? La lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, il répondit, « Me voici ! » Il se rendit en courant près d'Élie et lui dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » Celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva, alla trouver Élie. Il lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Retourne te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Quelques remarques sur ce texte, je vous dis très connu par ailleurs. D'abord, l'atmosphère, quand même, de décrépitude du début. La parole du Seigneur était rare. La vision et parole vont toujours ensemble, n'était pas chose courante. Élie devient aveugle. La lampe du Seigneur est en train de faiblir. Voilà. Le Seigneur appelle et Samuel, bravement, répond. Une fois, deux fois, trois fois, c'est l'histoire, c'est des contes, c'est une structure de contes. La troisième fois, voilà, la troisième fois, les choses vont se passer. Les choses vont se passer. Or, Samuel n'a pas compris, le Seigneur ne s'est pas révélé à lui. Et qui est-ce qui va mettre Samuel sur la voie ? C'est le vieux prêtre, dans son délabrement, dont les fils ne valent rien, et qui comprend à ce moment-là que son fils, celui qui doit lui succéder, ce ne sont pas ses fils. La deuxième fois, il dit « Mon fils, c'est Samuel ». Et qui comprend que désormais, ça ne se joue plus entre le Seigneur et lui, sa famille et le Seigneur, que ça va se jouer ailleurs, entre le Seigneur et Samuel devient le prophète du Seigneur, et Samuel, à ce moment-là, annonce à Élie que c'en est fini de sa dynastie, que c'en est fini du sanctuaire, les choses vont se jouer ailleurs. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Dans les périodes où l'institution semble vaciller, où les yeux semblent se fermer, où tout semble aller mal, c'est quand même quelqu'un de l'ancienne tradition, quelqu'un de l'ancienne époque, quelqu'un de l'ancienne, je sais pas comment il faut dire, école, qui vient montrer le chemin, qui vient montrer le chemin. Va vers là-bas, le Seigneur t'écoute. Voilà. J'en dis pas plus, mais moi je trouve qu'on peut lire ces textes en écho à ce qu'on vit, sans les maltraiter, en les observant bien. Je crois que j'ai pas maltraité le texte en disant que c'était construit pour montrer que c'était une atmosphère de fin de sanctuaire, de fin d'institution, de moment de disparition d'un règne, et que quelque chose allait naître, mais ce quelque chose n'est pas inventé ailleurs. Ce quelque chose, il est désigné par la vieille tradition. Et ça vous explique aussi pourquoi ils ont gardé toutes ces vieilleries. Pourquoi ils ont gardé les histoires des Baals, les prophètes égorgés, pourquoi ils ont gardé toute une série d'horreurs bien humaines, mais d'horreurs quand même. Parce que c'est quand même toujours du passé qu'on voit se dessiner un chemin d'avenir. Je crois que c'est ça aussi la tradition biblique. Quelle heure il est ? Je m'arrête là une seconde, parce que je vous ai un peu saoulé. C'est pas fini, mais ça va continuer. Et j'écoute vos questions, s'il y en a, à ce stade-là. Vous vous rappelez que ce sont des clés, hein ? Je ne vais pas entrer dans le détail et je vais reprendre après. Mais bon, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui ? Alors, je reprends votre question pour ceux qui sont au fond, qui n'ont peut-être pas entendu. J'ai dit la tradition orale un jour s'est mise par écrit, et la question c'est mais à quelle époque ces diverses traditions orales ont été mises par écrit, et je crois aussi à quelle époque l'ensemble a été repris. C'est la bonne question. Je vais le dire par la suite, mais j'anticipe quand même un peu. Bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et dans bon nombre de textes, notamment chez les prophètes, on ne sait pas ce qui est la parole orale. Alors Jérémie, lui, s'est mis par écrit, mais avant Jérémie, c'est oral. La parole orale des prophètes est le moment où ça a été mis par écrit, peut-être assez vite par leurs scribes à un moment donné, mais les moments où ça a été relu, où ça a été réintégré, etc. Pour beaucoup de choses, on ne sait pas. Vous prenez le livre d'Isaïe. Alors, tout le monde sait aujourd'hui que Isaïe est formé de 3 blocs, ou maintenant il n'y en a plus que 2, mais ce n'est pas grave. En gros, il y a 2 grandes époques, la fin du 8e siècle et le 6e, 5e siècle. Et ce n'est pas le même, même s'il a vécu très vieux, même si c'était Mathusalem qui a écrit à la fin du 8e siècle et au début du 6e. Comment ? Avant, tout ça est avant Jésus-Christ, bien avant. Bon, ce prophète Isaïe, donc 2 grandes époques pour un même prophète, et peut-être même 3, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un 3e Isaïe au 5e, 4e siècle. Bon. C'est une école. Il y a une figure originale ou originelle, je ne sais pas comment il faut dire, et là on sait, un homme de cour, un grand seigneur à la cour des rois, enfin des rois de la petite cour des rois de Juda, de Jérusalem, sous la botte des Assyriens, mais quand même, un grand seigneur, et quelqu'un qui savait parler. Bon, qui a proféré des oracles. Et puis il y en a eu d'autres, et là il y en a peut-être plusieurs, mais sûrement aussi un poète étonnant, inouï, au 6e siècle. Et puis d'autres encore au 5e, 4e siècle. On parle maintenant beaucoup en termes d'école. D'accord ? Voilà. L'école d'Isaïe. Alors on dira, qui est le véritable Isaïe ? On verra ça tout à l'heure pour Amos. Oui, il y a le gars qui a parlé. Et qui a laissé certainement des oracles très anciens, très sûrs. Mais on ne sait pas toujours les découper comme il faut, ces oracles. Ça a tellement été repris, remâché. Et le début du livre d'Isaïe, vous allez dire, moi je lis le début, comme ça, j'ai le plus ancien. Mais pas du tout. Les 4 premiers chapitres du livre d'Isaïe, ils ont été écrits complètement en harmonie avec les 4 derniers. On a réécrit des premiers chapitres pour faire écho aux 4 derniers. Et dire très exactement à peu près la même chose que les 4 derniers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a été remanié, repris. Quand ? En gros, 6e, 5e, 4e siècle. Voilà, on redira un peu mieux. Il y a d'autres questions? Oui? Ah mon Dieu, y a-t-il dans l'Ancien Testament les gènes du Dieu trinitaire? Les germes. Il y a un germe dans l'Ancien Testament qu'on attend, mais c'est le Messie. Alors, réponse, je crois qu'on peut répondre très clairement non. Pour répondre très clairement non. Mais, et dans le Nouveau Testament, oui, il y a les germes, très clairement oui, en tout cas dans les paroles liturgiques, et dans un certain nombre de textes paulidiens, mais ce sont des germes. Par contre, ce qu'on peut dire, ce que je crois qu'on peut dire, je ne crois pas m'avancer trop, et je ne pense pas que le monde juif dirait le contraire, on a un Dieu qui vient à l'homme. On a un Dieu qui vient à l'homme, un Dieu qui crée par sa parole et par son souffle. Voilà, un Dieu qui crée par sa parole et par son souffle, le Dieu du premier récit de la création. Il y a le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Alors, la rouar, c'est un nom féminin, mais c'est quand même l'esprit. C'est le même mot qui veut dire souffle, souffle de vie, esprit, vent. En grec, on aura pneuma, le vent souffle où il veut, l'esprit créateur. Et Dieu dit, et ça fait. C'est la parole de Dieu qui est, on dit en termes contemporains, performatif, qui est efficace. Quand Dieu dit, ça fait. Voilà. Est-ce qu'on a pu voir? Alors, les pères de l'Église, évidemment, se sont précipités là-dessus. On dit, mais évidemment, il est trinitaire depuis le début. Ouvrez le premier livre, ouvrez la Genèse, vous avez Dieu, l'Esprit, la parole. Bon, ça, c'est pas possible de parler comme ça. N'empêche que, dans ce Dieu qui vient à l'homme et qui crée par son souffle et par sa parole, il n'est pas interdit, aux chrétiens de dire, ben, dans l'histoire, on a pu le comprendre, au fond... à la lumière de la vie, la mort, la résurrection et le don de son propre souffle à ses disciples de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne me mettez pas un Dieu trinitaire au milieu de l'Ancien Testament. Non, un monothéisme martelé. Alors là, il a été martelé qu'au VIe siècle. Hein. Je suis Dieu, moi, et il n'y en a pas d'autre, c'est moi Dieu. Alors, lisez Isaïe 40 à 45, c'est... Voilà, je suis Dieu et il n'y en a qu'un. Surtout, n'allez pas raconter n'importe quoi. Mais, ce Dieu, s'approchant de l'homme, s'approchant, créant le monde, soutenant le monde, donnant sa vie au monde, il donne son souffle et sa parole. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que les théologiens, là, au fond, Bertrand, peuvent m'aider, là, un peu? Bon, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien sûr. Ah ben complètement. Et le Nouveau Testament relie sans arrêt l'Ancien. Et alors les pères de l'Église, eux, ont passé leur temps à relire l'Ancien Testament. Et vous avez la phrase attribuée à Augustin, mais peu importe si elle est de lui, que l'Ancien, la tête et l'attend dans le Nouveau, et que le nouveau, patate, est présent dans l'ancien. Donc un sentiment très fort dans la relecture que ces pères de l'Église pendant longtemps et toujours ont de la cohérence des deux. Ce qui n'empêche qu'on dira tout à l'heure qu'il y a une autonomie des Écritures juives. Il y a une question là. Attends, elle était avant. Oui. Même pas. Vous pouvez lui demander pourquoi la parole de Dieu est arrivée si tardivement dans l'histoire de l'humanité? J'en sais rien. Mais elle est peut-être arrivée avant, parce que l'homme a toujours cherché des dieux. L'homme a toujours eu quelque chose qui le poussait vers l'idée d'une transcendance, me semble-t-il. Bon, je ne suis pas anthropologue. Enfin, quand même, les premières divinités, c'est évidemment des divinités de la nature, les mères nourricières, etc. Mais ce sentiment que la vie dépasse largement la petite fragilité limitée de la vie humaine et même du bout d'histoire qu'on vit, il me semble que c'est très tôt dans l'humanité. Et donc, moi, je crois que les hommes ont toujours eu l'idée de quelque chose. Alors, vous allez me dire, ce Dieu en quête de l'homme, il a mis du temps pour arriver. Oui, mais il continue. Hein. Si vous croyez qu'il est arrivé, est-ce qu'on a compris de Dieu ? Il n'y a qu'à voir comment on se conduit. On n'a rien compris. Si vous ouvrez le journal, vous voyez que l'humanité n'a rien compris du Dieu qui vient bénir le monde. Où est la bénédiction dont nous sommes chargés de témoigner et que nous sommes chargés de mettre en œuvre? Donc, peut-être 12 000 ans, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous devons, et ça, moi, je le crois intensément, nous devons à ce minuscule petit peuple de l'Orient ancien, on va voir toujours sous la botte des grands empires, d'avoir un jour martelé le Dieu unique et de nous l'avoir transmis, créateur, sauveur, un seul, en quête de l'homme. Ça, je ne suis pas sûre que d'autres traditions religieuses le disent comme ça. Et donc, moi, je suis infiniment reconnaissante à la tradition juive de nous avoir transmis ça, parce qu'ils nous ont transmis aussi Jésus le Christ. Il y a une question là. Ah oui. Oui, réponse oui, on en reparlera un peu, mais oui. Eh bien, moi, je pense... Alors, peut-être... Alors, vous voulez qu'on reprenne la question ? La question, c'est lecture chrétienne et lecture juive de l'Ancien Testament. Les Juifs n'ont pas d'Ancien Testament. Hein. Ils ont des écritures, un Tanakh, on va en reparler. Oui, différence, oui, c'est sûr, même s'il y a des dialogues, même si on s'intéresse les uns et les autres. Ça, on en reparlera. Deuxièmement, vous dites, je découvre Dieu en quête de l'homme, alors que normalement, c'est l'homme en quête de Dieu. Oui. Mais justement, c'est ça que je voulais montrer comme étant, pour moi, une des caractéristiques de la démarche biblique et israélite et juive, c'est qu'en étant en quête d'une autorité, d'une garantie, d'un patriarche, d'un Dieu, ils ont découvert que c'était l'inverse, que c'était Dieu qui venait à l'homme. Alors, il y a un très beau livre d'un auteur juif du milieu du XXe siècle, Abraham Heschel, à qui j'emprunte l'expression, hein, qui s'appelle « Dieu en quête de l'homme ». Donc c'est un juif, Abraham Heschel, un auteur remarquable, qui intitule comme ça son livre. Mais moi, je crois que c'est justement ce que vous avez bien ciblé, là, c'est le renversement que j'attribue à la lecture biblique. Ça va ? Encore une question, puis après on continue un tout petit peu avant la pause. Oui. Alors, la question. J'ai dit que le prophète dénonçait et non pas annonçait, ou s'il annonçait, c'est parce qu'il voit très bien que ce qu'il est en train de dénoncer, le mal vivre, le mal se conduire, est en train de conduire à la catastrophe. C'est des analystes politiques, hein, les prophètes. C'est des fins analystes politiques, ils savent ce qui va se passer. Bon. Dans le Nouveau Testament, on a l'impression que les prophètes ont annoncé. Parce que là encore, c'est une affaire de relecture. La relecture par les disciples de Jésus et par les évangélistes de l'Ancien Testament, c'est dire tout ce qu'ils ont dit s'accomplit dans la vie, la mort, la résurrection de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Donc si on relit comme ça à l'envers, évidemment, on se met à dire que les prophètes annoncent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là aussi, c'est un effet de relecture. Et alors, du coup, Matthieu vous dit, tout parle tout en termes d'accomplissement. L'accomplit ce qu'annonçaient les prophètes. Ce que les prophètes disaient trouve une forme accomplie dans ce que Jésus fait et dit. Voilà. Mais il n'y a pas les prophètes n'ont pas annoncé Jésus de Nazareth. Ils ont annoncé les... Dernier, on verra tout au bord de ce qui sera beaucoup plus tard le Nouveau Testament, une alliance nouvelle où Dieu transformerait le cœur de l'homme. Et ça... Alors ça, je vais le raconter cet après-midi. On rentre dans le détail. Je vous demande encore 10 minutes avant de faire une pause pour avancer un tout petit peu dans un premier temps, même si je ne fais pas tout, mais j'aimerais quand même, on va voir. Qui est, puisque j'ai dit que c'était l'histoire d'un peuple, théoriquement, un peuple, ça a une terre. Première chose. On va dire deux choses. Un peuple, ça a une terre, une réalité géographique et une réalité, on va dire, géoculturelle. C'est dans une ère de culture. Et deuxièmement, on dira un peuple, ce peuple-là, il a une bibliothèque, et ça, ça sera la Bible. Plus court, mais à dire quand même, un peuple, c'est une terre. Ce petit peuple, qui est essentiellement, je dirais, d'abord un peuple itinérant, il y a eu 400 ou 600 ans de stabilisation avec les rois. Bon. Ce petit peuple est géographiquement situé, depuis toujours, au croisement des grandes civilisations anciennes, les plus anciennes qu'on connaisse, je ne connais pas la Chine, et il y avait sûrement la Chine, mais peu importe. Celles qu'on connaît en Occident, les civilisations mésopotamiennes, hein, l'Iran, l'Irak, voilà, le Tigre et l'Euphrate, et la civilisation égyptienne au sud, les deux grandes civilisations. Alors, une vieille carte, qui était dans un des. Pour lire l'Ancien Testament, elle a été reprise, mais j'aime mieux l'ancienne, qui montre à quel point le petit rectangle où se balade au milieu le peuple d'Israël, et au passage, et au passage obligé, entre les peuples du Nord, hein, les grandes civilisations du Nord, un peu une origine de l'écriture à Sumer, 3000, 3500 avant Jésus-Christ, bon, et après Sumer, il y a eu les Akkadiens, et après il y a eu les Assyriens, et après les Babyloniens, enfin tous les peuples du Nord, Nord-Est, et le grand peuple du Sud, les Égyptiens. Donc vous savez mieux que moi la splendeur de la civilisation. Or, entre les deux, il y a quoi ? Il y a le désert. Alors, le désert, sauf si on est des nomades bien trempés et avec des caravanes de chameaux, on traverse quand même pas facilement. Le passage pour traverser et pour commercer quand même mieux, c'est la bande littorale. Et c'est donc là où se trouve Israël. Vous voyez bien que le passage entre les deux. Et cet endroit a été le lieu de toutes les prétentions, de toutes les envies, de toutes les obsessions des royaumes des empires du Sud et surtout des empires du Nord pour pouvoir commercer. C'est surtout au Nord où ils avaient envie de s'emparer des richesses de l'Égypte. Voilà. Or, la mer, ils n'aimaient pas. C'était des peuples qui n'aimaient pas la mer. Et donc, on passait par cette étroite bande de terre convoitée par tout le monde. Donc, un peuple sans cesse pris entre deux feux et le plus souvent sous l'oppression. On était à peu près libre, mais il fallait payer des impôts. Alors, on payait tribut, ce qui s'appelle payer tribut, des taxes énormes, écrasantes, pour l'un ou l'autre de ces peuples, surtout les peuples du Nord. Alors, cette carte est intéressante parce que ça ressemble un peu, je ne sais pas si vous avez lu l'Odyssée d'Astérix. Astérix qui remonte dans le désert et qui rencontre justement les peuples successifs. D'abord les Sumériens, ensuite les Akkadiens, ensuite les Hittites, etc. Bon. Là, cette carte permet de voir à quel point l'histoire ancienne d'Israël a été une histoire compliquée et de peuples écrasés par les grands voisins. Le premier, c'est l'Égypte, en bas. C'est assez facile. En fait, anciennement, c'est effectivement les pharaons égyptiens qui prélevaient des tributs sur les petits rois des royaumes de Canaan, les petits rois cananéens, donc avant l'installation d'Israël, avant l'an 1200 000. Ils prélevaient l'impôt. Ils n'étaient pas très embêtants, les Égyptiens. Ça leur servait, au fond, de couverture contre ceux du Nord. Voilà. Mais ils n'étaient pas très présents. Le tout, c'est qu'on paye l'impôt. Par contre, au Nord, ça allait vite être compliqué et envahissant. Le numéro 2, vous le voyez, c'est ceux du milieu, là, ceux qui viennent d'Assur. Assur, en gros, pour que vous y compreniez quelque chose aujourd'hui, très grossièrement, c'est Mossoul. Vous voyez là ? Assur, là-bas, j'arrive pas à attraper. Ninive, on l'appelle Ninive, la capitale. Ninive, c'est Mossoul. C'est Mossoul, à peu près. Alors, eux, les Assyriens, ont énormément convoité le petit peuple d'Israël, et c'est eux qui ont écrasé et même déporté, on en reparlera, une partie d'Israël, le royaume du Nord, qui disparaît en 721. Mais après, ils essayent d'occuper le sud, ils relèvent des taxes et ils essayent toujours d'atteindre l'Égypte, évidemment. Après eux sont venus les Babyloniens, c'est le 3. Ceux-là, c'est Babylone, c'est en gros Bagdad. C'est les mêmes, les Babyloniens et les Assyriens, sauf qu'ils se sont tapés sur la figure tout le temps. C'est les mêmes, tantôt les uns, tantôt les autres. Ils occupent plus ou moins le même territoire, l'Irak actuel. Et ils rêvent tous de descendre sur l'Égypte. Et puis vous avez un grand 4 qui vient de beaucoup plus loin, qui vient de l'Iran actuel. Et ça, on est au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est les Perses. C'est les Perses qui vont balayer tout ça et eux aussi arriver jusqu'en Égypte. Les Babyloniens y étaient arrivés, les Perses y arriveront largement. Voilà. Ça, c'est ceux qui viennent de l'Iran actuel et qui vont aussi balayer. Mais ce n'est pas fini. Un jour, les Perses tomberont et ils vont tomber contre des envahisseurs venus de l'Ouest, l'épopée d'Alexandre le Grand. 10 ans pour balayer le monde entier connu à l'époque, depuis la Macédoine jusqu'à l'Indus. Et puis ensuite, pour établir des royaumes grecs. Et évidemment, on va en Égypte, et donc le petit peuple d'Israël est sous domination grecque. Et puis les Grecs vont tomber devant le voisin qui est un peu plus à l'ouest, les Romains. Hein, les Romains qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, vont s'emparer aussi de la région qu'on appelle Palestine. Ils l'appelleront Palestine 2 siècles plus tard. Hein. Mais en gros, de la Judée-Galilée. Donc, sans arrêt occupé par cette succession de peuples qui passent, il y avait des combats, et chaque fois, il fallait, quand on était occupé, payer de lourds impôts pour une population qui, évidemment, n'était pas très riche. Voilà, ça, c'est la première chose. En même temps, ces grandes civilisations, elles avaient des cultures extrêmement développées. Et les scribes, l'intellectuel, les prophètes d'Israël, les théologiens d'Israël, les écrivains, les poètes, se sont largement inspirés de ces grandes cultures environnantes. Même les lois, il y a un code de loi du roi Hittite Hammurabi qui date du 1700 avant Jésus-Christ, qui a largement influencé les lois diverses d'Israël. Il y a des influences sont fortes, la Bible elle n'est pas de nulle part. Il y a un milieu, un bouillon de culture là qui est extrêmement vivant et dont les auteurs de la Bible profitent à toutes les époques. Les auteurs de la Bible, ils connaissent les grandes épopées de ces peuples-là. Ils connaissent les grandes épopées de ces peuples-là parce que c'est surtout des épopées qu'on a, alors les codes de loi et les épopées. Il y a des épopées dont vous avez peut-être entendu parler, notamment l'épopée de Gilgamesh, qui est un grand récit en des tas de langues différentes, hein, plusieurs langues, acadiens, hittites, etc., qui doit dater du 17e, du 18e, peut-être même avant, dit-on, moi j'en sais rien, avant Jésus-Christ, et dont les auteurs bibliques se sont emparés à plusieurs reprises, mais c'est chaque fois pour corriger le tir et dire ce qu'ils disent là, nous, on va le dire autrement. En fait, on va le dire en fonction de notre Dieu, le Dieu d'Israël. Exemple. Alors, je n'ai pas Gilgamesh, là. Non, j'en ai un autre. Bon. Un exemple de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un roman d'initiation du jeune Gilgamesh qui part pour devenir un homme. Donc, il va rencontrer son ami Enkidu, qui va l'aider. Il va rencontrer la femme. Voilà. Et à la fin du roman, il est en quête de la plante d'immortalité. Il y en a comme ça. On a un Elon Musk, là. S'il trouvait la plante d'immortalité, il serait ravi. Bon. La plante d'immortalité. Et il la trouve. Et il la trouve. Et il repart chez lui, évidemment. Il repart chez lui avec la plante d'immortalité dans un sac. Mais il est fatigué. Les hommes, ça fatigue. Et il s'endort. Et pendant qu'il dort, vous savez ce qui se passe? Il y a un serpent qui sort de terre et qui mange la plante d'immortalité. C'est quand même intéressant. Le récit de la Genèse, avec ce serpent venu de nulle part, qui vient dire « Ah, mais il n'a pas dit ça, il a dit autre chose. » Et vous allez voir comment on est pour être comme des dieux et qu'il leur vole finalement quelque chose du lien avec Dieu. C'est du Gilgamesh repris, médité, mouliné, et dont on utilise pour dire « Voilà ce qu'il faut en dire maintenant. » Ça va? C'est clair, il s'inspire de ça. Le premier récit de la création s'inspire très clairement. J'y arrive pas. Je vous dis des bêtises. Attendez. Hop, 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 hop. Voilà. D'une épopée qui est un peu pas très ancienne, mais en gros que c'est 1300, 1100 avant Jésus-Christ, pas mal quand même, qui s'appelle Enuma Elish, lorsque les dieux, lorsque le ciel, voilà, lorsqu'en haut le ciel, et qui raconte la création du monde et qui était très en vogue à Babylone lorsque les Juifs du Sud ont été 70 ans en exil à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ, 598, 520, 538. Très en vogue à Babylone, où on faisait des grandes fêtes en faveur de ces dieux, à l'honneur de ces dieux, surtout Marduk, le dieu du ciel. Voilà comment la création est décrite. Marduk, c'est le dieu du ciel. Tiamat, c'est la déesse des eaux. Dangereuse, parce qu'il y a des inondations dans ces pays-là. Quand le Tigre et l'Euphrate sortent de leur lit, ça inonde tout. Quand ça, juste ça permet à la terre d'être humide et de bien donner du fruit, ça va. Mais quand ça crée des dégâts terribles, l'inondation, ça fait peur. Donc Tiamat, c'est la déesse des eaux, elle est dangereuse. Lorsqu'en haut le ciel n'était pas nommé, qu'en bas la terre ferme n'avait pas reçu de nom, ce fut Apsoul initial qui les engendra tous. Alors, il y a toujours des engendrements de Dieu. Hein. La causale Tiamat, les eaux, qui les enfanta tous. Lorsque Marduk eut tué Tiamat, donc lorsque le ciel eut tué les eaux, il mit le pied sur la base de Tiamat, de sa masse inexorable fracassa le crâne. Calmé, il examine son cadavre. Il veut diviser le monstre et faire quelque chose d'ingénieux. Il le fendit en deux comme un poisson au séchage. En disposa une moitié comme ciel sous forme de plafond, il tendit la peau, installa des gardes et leur donna pour mission de ne pas laisser sortir des eaux. Une création de l'univers sec qui va apparaître, et après il va y avoir l'humanité, par un combat de violent de Dieu, dont le Dieu du ciel qui casse en deux la déesse du mal, la déesse des forces obscures, et qui se sert de sa peau pour tenir les eaux d'en haut qui sont dangereuses et les eaux d'en bas en écartant les deux pour que l'humanité puisse vivre au milieu. Donc, une création polythéiste dans la violence. L'auteur biblique du premier récit de la création, il s'en est souvenu. Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il met un plafond pour séparer les eaux d'en haut. Et c'était la cosmologie de l'époque, hein, la terre plate, un plafond de verre comme ça, le ciel, troué d'étoiles, les eaux d'en haut que ça empêche de tomber, et les eaux d'en bas qui portent le disque terrestre et dont il ne faut pas qu'elles passent par-dessus. Hein, c'est dangereux. Voilà. Il s'en sert, il reprend ça avec la cosmologie de son époque. Mais lui, il n'y a pas de combat violent, il n'y a pas 36 divinités, il y a un Dieu unique qui dit, et ça fait pour que ça soit bon. Ça va ? Vous voyez l'utilisation ? Alors, dernier exemple, et après on fait une pause. Dernier exemple, une épopée très ancienne. Atraasis, c'est le début de l'humanité. C'est comment est née l'humanité. Donc là, on va avoir des influences sur le deuxième récit de la Genèse. Et de fait, on n'est plus au nord en Mésopotamie. C'est une histoire de Dieu, encore une fois, où il y a des grands dieux et des petits dieux. Et les grands dieux ont opprimé les petits dieux. C'est toujours pareil, les forts oppriment les petits. Et les petits dieux sont obligés de faire la cuisine et de servir les grands dieux, et c'est fatigant, et de faire les lits, et de nettoyer, etc. Et ils se révoltent. Et devant la révolte, les grands dieux ont peur. Alors, ils vont voir un sage, Enlil, et Enlil leur dit « Anuno, grand dieu, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous former ?» Et ensemble, ils discutent. Alors, j'ai passé un peu, puis après, ils répondirent « Abattez des dieux Allah, ça c'est les petits dieux, que leur sang produise l'humanité, que la corvée des dieux devienne leur corvée, pour à perpétuité faire bien aller la rigole, faire foisonner les plantes, fixer les frontières, entasser des grains, faire fructifier les champs, verser de l'eau fraîche en libation. Qu'on abatte un dieu, à sa chair et à son sang qu'on mêle de l'argile, que du dieu même et de l'homme soient mêlés ensemble dans l'argile. Et ensuite, ces dieux, ces hommes sont créés pour le service des dieux. Un des hommes fabriqués avec de l'argile, avec du sang d'un dieu dedans, pour qu'il y ait un peu de Dieu dans l'homme. Mais ça ressemble au deuxième récit de la création. Le Dieu potier qui façonne l'être humain et qui souffle pour lui donner sa vie. C'est exactement ça. Seulement, dans ce récit-là, l'humanité, elle est fabriquée pour quoi ? Pour servir les dieux, pour soulager les petits, pour servir les grands, pour faire travailler dans les champs, faire produire les fruits et apporter les fruits et les libations sur l'autel des dieux pour les nourrir. Le récit de la Genèse reprend l'idée, mais c'est tout le contraire. C'est Dieu qui a planté le jardin avant et qui va confier le jardin à l'homme qui sont, et à la femme qui sont ses amis. Vous voyez la transformation ? Donc le milieu culturel joue, mais on reprend, on transforme, on médite, et ça dans un lieu différent de celui du premier récit, qui était plutôt, à mon avis, fabriqué, écrit à Babylone, avec les dieux babyloniens, et là on est plutôt dans le nord, peut-être beaucoup plus tôt, 2 siècles avant, 3 siècles avant, où on écrit un récit de création en réponse et en faisant résonner les récits connus à l'époque des grandes puissances autour qui avaient leurs scribes, leurs maisons d'édition, etc. Ça va ? Bon, si vous voulez bien, on fait une pause d'un quart d'heure. Vous avez la librairie dehors, avec des Bibles qui vous sont vendues. Il y a quelque chose de très triste, c'est que la Bible, la grosse Bible top, notes intégrales, n'est plus publiée. En réalité, elle va